19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Bagassi Koura pour ce bulletin d'information. Dans quelques minutes, Sporama avec Nicolas Pinot, toute l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Restez branchés, c'est dans un instant. Depuis ce lundi matin, les rues de Kinshasa sont fortement quadrillées par des forces de l'ordre, en particulier les abords du Palais du Peuple. C'est là que les sénateurs congolais doivent voter la loi électorale adoptée samedi soir par les députés. Le point avec Eric Ambago de notre station partenaire Top Congo FM à Kinshasa.
Ils étaient des milliers dans les rues de Kinshasa. À l'appel de l'opposition, ces militants protestaient contre la modification de la loi électorale. Ils se sont heurté à un dispositif militaire et policier, dispositif déployé à l'occasion de l'arrivée à Kinshasa du président angolais Eduardo dos Santos. Si certains opposants ont pu manifester avec leurs militants, d'autres ont été bloqués au siège de leur parti avant d'être libérés. Les forces de l'ordre n'ont pas hésité d'user de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Les ONG de défense des droits de l'homme parlent de 8 blessés, mais selon le porte-parole du gouvernement, il y aurait 4 morts, 2 côté force de l'ordre et de côté civil, tous des morts par balle. La circulation et les commerces étaient paralysés au courant de la journée. En début de soirée, le calme était en train de revenir, même si dans certains quartiers, des poches de résistance étaient enregistrées. De Kinshasa, Eric Ambago de Top Congo pour VOA Afrique.
Cette situation tendue à Kinshasa intervient alors que Joseph Kabila reçoit son homologue angolais José Eduardo Santos. Les deux hommes d'État doivent signer des accords de coopération économique et discuter de la situation dans l'est de la RDC, car le dirigeant angolais est président en exercice de la CIRGL. L'opposition congolaise, elle, demande au peuple de maintenir la pression pour empêcher l'adoption de la réforme électorale. D'autre part, toujours en RDC, d'après notre correspondant Primo Pascal Rudaigua dans l'est du pays, plusieurs personnes ont été arrêtées à Goma, dans la province du Nord Kivu, lors de la marche des partis d'opposition contre l'adoption du projet de loi électorale. Au Niger, le gouvernement du Niger donc a annoncé un deuil national de 3 jours à compter de ce lundi en mémoire des 10 personnes mortes durant les émeutes contre la caricature de Mahomet, publiée la semaine dernière par l'hebdomadaire français Charlie Hebdo. De vendredi à dimanche, plusieurs villes du pays ont été plongées dans de violences meurtrières. Mais ce lundi matin, tout est rentré dans l'ordre, nous dit notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa. La police au Kenya a lancé des gaz lacrymogènes ce lundi sur un groupe d'écoliers qui protestaient contre la perte de leur terrain de jeu ayant été attribué à un promoteur immobilier privé. Une vidéo prise à Nairobi montre des enfants qui courent dans la panique après que la police anti-émeute ait largué une bombe lacrymogène sur la foule. Au moins 3 enfants ont été blessés dans l'agitation. Ouverture des écoles en Guinée. Aujourd'hui, après un délai de 5 mois en raison d'Ebola, le Libéria envisage de rouvrir les écoles le mois prochain. Les autorités assurent que les écoles seront dotées de thermomètres et de désinfectants pour le lavage des mains. En Guinée, des groupes de la société civile ont menacé de protester si les écoles ne rouvraient pas ce lundi. Maintenant, ils ont dit surveiller les établissements scolaires pour s'assurer que toutes les mesures sanitaires sont bien en place. En Sierra Leone, où les écoles restent fermées, l'UNICEF dit que les grossesses chez les adolescentes sont en hausse et enquête sur l'augmentation du travail des enfants depuis la fermeture des établissements scolaires.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Voilà l'actualité internationale. Et l'Iran annonce la mort d'un de ses généraux dans une frappe de l'aviation israélienne sur le plateau du Golan. Le général Mohammad Abdallah Dadi, un ancien commandant de la garde révolutionnaire, a été tué en même temps que 6 membres du groupe chiite libanais Hezbollah. C'est férié ce lundi aux États-Unis, Martin Luther King Day, une fête instituée en 1983 lorsque le président Ronald Reagan a signé une loi consacrant le 3e lundi de janvier en l'honneur du docteur Martin Luther King Jr. qui est né le 15 janvier 1929. Voilà, c'est l'heure de Sporama avec Nicolas Pinot, plein feu sur la CAN 2015.
Bienvenue à la CAN qui est venue d'un bolo. Olé, 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 olé
Bonsoir à tous, Sporama, c'est parti comme tous les lundis soirs sur VOA Afrique, votre magazine dédié au sport. Évidemment, plein feu ce soir sur la Coupe d'Afrique des Nations. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Vous pouvez nous consulter sur notre page Facebook VOA Afrique, mais nous attendons également vos appels en direct. Le 001 202 619 31 40. Avec nous ce soir pour en parler, nos consultants, Jules Valentin Ngwe à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également à Abidjan, Roger Stéphane C, bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas et bienvenue à Abidjan.
Et on va faire un grand coucou également à Boïcon, Élisée Ongpatine, bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bienvenue au Bénin.
Allez messieurs, on va évidemment parler de cette 30e Coupe d'Afrique des Nations qui a débuté samedi à Bata en Guinée équatoriale. Les matchs du groupe C ce lundi à Mongomo, l'Algérie qui affronte en ce moment même l'Afrique du Sud depuis quelques minutes. Pour le moment, c'est toujours 0-0 entre les deux équipes. Et puis évidemment, un petit peu plus tôt, il y a eu cette très très belle surprise. Les compétitions de ce genre nous donnent souvent l'occasion d'assister à ces surprises. Le Sénégal qui a été battu par le Ghana 1-0. C'est André Ayou qui a ouvert le score sur pénalty à la 14e minute de jeu. Un mauvais résultat pour les Lions de la Teranga, qui évidemment un très bon résultat pour les Lions de la Teranga qui jouaient sans Sadio Mané. On va rappeler que l'attaquant sénégalais a évidemment été ménagé, il était blessé. Et on va évidemment vous donner la parole concernant ce match. Alors on va prendre un auditeur en ligne qui est avec nous depuis Bamako. Il s'agit de Choco Robino Keita. Bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur.
Alors, victoire 2-1 des Sénégalais, qu'est-ce que vous avez pensé de cette belle rencontre, hein, du beau football hein?
C'est un beau football, je pense que vraiment, cet après-midi, les Sénégalais nous ont montré qu'ils étaient parmi les favoris. Je pense qu'avec, ils nous ont montré un beau jeu ce soir. Avec, ils étaient menés 1-0, je pense qu'ils ont poussé, jusqu'à l'égalité. Et mettre le deuxième but, je pense qu'ils ont été excellents avec un entraîneur expérimenté, je pense que s'ils continuent comme ça, ils vont aller très loin, je pense.
Merci beaucoup, Choco Robino, de nous avoir appelé depuis Bamako. On va passer la parole, évidemment, à Élisée Ongpatine. Élisée, vous êtes au Bénin. Les Black Stars, hein, qui ont joué sans Asamoah Gyan, qui a été victime d'une crise de paludisme. C'était évidemment samedi. Il ne s'est pas entraîné dimanche. Il a été remplacé par Jordan Ayou et c'est André Ayou qui a inscrit, évidemment, le penalty pour les Ghanéens. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Une belle équipe sénégalaise, hein, très offensive, même après le but, hein.
Bien évidemment, les Sénégalais ont su saisir leur chance. Hein. Ils ont dominé de bout en bout cette explication puisque dès l'entame, ils ont concédé un pénalty transformé, vous l'avez dit, par André Ayou. Et par la suite, nous avons vu une très bonne équipe sénégalaise concurrente, hein, surtout avec beaucoup d'agressivité, une pression énorme sur les Ghanéens qui ont finalement subi, qui ont concédé deux buts. C'est vrai, c'est logique puisque nous avons vu surtout en deuxième partie une grande formation sénégalaise. Chapeau donc à Alain Giresse, hein, qui, n'oublions pas, maîtrise le football africain pour avoir servi au Gabon et amener le Mali surtout à une troisième place en 2012. C'est-à-dire que les Sénégalais ont vraiment de la valeur à vendre durant cette compétition.
Oui, Mamdi Ramdjouf hein, et Moussa Sow qui ont été évidemment les buteurs sénégalais. Jules Valentin à Libreville, votre sentiment sur cette rencontre? On parle de groupe de la mort, chaque victoire est importante, hein, intéressant pour les Sénégalais. Hein.
Oui, chaque victoire est importante pour toutes les équipes et le Sénégal a mérité sa victoire et ce soir. Une victoire construite en seconde mi-temps, comme on l'a dit. Et surtout, le grand mérite revient à son entraîneur Jean Giresse qui a fait un réajustement tactique permettant à la défense de passer de 3 à 4 et stabilisant ainsi son secteur clé. Et finalement, il a également utilisé toute la largeur du terrain en deuxième mi-temps, contrairement à la première où le jeu en profondeur mourait dans l'axe. Et là, on a vu des joueurs de couloir sur les côtés déborder régulièrement, donner des bons centres en retrait et mettre la pression sur les Ghanéens. Des Ghanéens qui ont manqué de fraîcheur physique en seconde mi-temps, ont reculé, donc ont subi. Et finalement, un bon coaching en fin de rencontre a donné la victoire au Sénégal. Mais il faut dire aussi que la chance est pour les Sénégalais, car tout s'est joué à quelques secondes de la fin de la rencontre.
Eh oui, un but dans les arrêts de jeu, mais un but mérité, hein, un but mérité tant on sentait la pression des Sénégalais. On va rappeler que pour le moment, 0-0 entre l'Algérie et l'Afrique du Sud à Mongomo. On va prendre tout de suite un autre auditeur en ligne qui nous appelle de Cancan. C'est en Guinée. On va saluer Laïsekou Kaba. Bonsoir.
Ouais, bonsoir, comment ça va?
Ben, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, j'imagine qu'à Cancan, vous avez suivi ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre Ghana-Sénégal? On le rappelle, les Sénégalais l'ont emporté 2-1.
Voilà, je peux dire par là, largement dominante, le Sénégal a dû hâte minutes du match pour victoire grâce à Léon de la Tiranga. Maintenant, expression pour la première canne. Ce que je peux dire par là, aujourd'hui, le Sénégal a joué, c'est comme le Ghana aussi. Mais le Sénégal a bien joué par rapport au Ghana, ce que je peux dire par là.
Et alors là, il y aura évidemment demain l'entrée en lice du Sili National de Guinée contre la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous attendez de ce match?
Voilà, ce que j'attends sur ce match, la Guinée doit gagner. Parce qu'actuellement, si nous faisons la comparaison entre l'équipe guinéenne et l'équipe ghanéenne, voilà, le milieu de terrain, la Côte d'Ivoire est bien en milieu de terrain par rapport à la Guinée. Mais ce que je peux dire en matière de défense, les défenses côte ivoiriennes ne sont pas bonnes par rapport aux défenses guinéennes. Quand même, ce que je peux dire par là, la Guinée va gagner, effectivement.
Mais votre sentiment, il y a eu les conférences de presse d'avant-match aujourd'hui, Ibrahima, et finalement, vous avez le joueur de Traoré, Ibrahima Traoré de la Guinée, qui disait finalement, on va jouer pour la population, en pensant évidemment à cette épidémie d'Ebola qui a été dévastatrice l'année dernière. Est-ce que c'est aussi important pour vous d'avoir du bonheur et penser à autre chose en Guinée avec cette Coupe d'Afrique des Nations?
Voilà, maintenant, ce que je peux dire par là, concernant sur le problème d'Ebola en Guinée, peut-être cette année, la Guinée va faire une surprise pour l'honneur de l'Ebola en Guinée. Et d'après Ibrahima Traoré, il dit que le match est un peu difficile, mais quand même qu'ils comptent gagner, qu'ils sont venus conséquemment pour faire la victoire.
Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé depuis Cancan. On va saluer tous ceux qui nous écoutent en Haute-Guinée et tous les fidèles hein, évidemment en Guinée de VO Afrique. On va passer évidemment à Roger Stéphane C. Roger Stéphane C, on rappelle évidemment l'Algérie qui joue en ce moment 0-0 actuellement contre l'Afrique du Sud à Mongomo. Cette équipe algérienne, on le rappelle, c'est vraiment l'épouvantail hein, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un très bon bloc équipe qui a très peu changé depuis la Coupe du Monde 2014. On le rappelle, 8e de finaliste. Les Algériens avaient chuté face au futur champion du monde allemand. On rappelle que les Algériens sont la première nation africaine. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est l'Algérie qui a un fort potentiel? On rappelle cependant que les Algériens n'ont rien gagné depuis 25 ans, 1990. Est-ce que vous pensez que 2015, c'est l'année de l'Algérie?
Oui, ça pourrait être l'année de l'Algérie. Hein. Jamais depuis 1982, une équipe algérienne n'était apparue aussi sûre de sa force. C'est l'équipe qui a fait trembler l'équipe de l'Allemagne lors de la Coupe du Monde. Les Fenech ont remporté quasiment tous les matchs éliminatoires et ils ont déjà qualifié à la mi-octobre. C'est une équipe formidable. Le sélectionneur Vahid Halilhodžić qui a laissé du bon travail, bien récupéré par Christian Gourcuff, qui a fait l'unanimité avec tout le travail qu'il a battu à la tête de cette équipe algérienne. Dernier classement FIFA, 18e mondial et premier africain. Enfin bref, c'est une équipe qui est sûre, qui est forte, qui sait où elle va, qui a tous les arguments pour elle en ce moment. Et puis, il y a ces garçons qui sont en forme. Vous avez Brahimi, puis Sofengouli, qui sont les deux gros messieurs de cette formation. Mais attention, ça fait plus de 25 ans que l'Algérie n'a pas encore gagné une Coupe d'Afrique. C'est une pression qui pourrait peut-être perturber quelque peu les joueurs qui ont peut-être brillé la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde est différente de la Coupe d'Afrique. Il va falloir régler tous ces petits détails, l'environnement, le terrain et puis tout le reste. Sinon, vous avez effectivement raison, l'Algérie est la grosse machine, l'équipe à abattre à Cannes véritablement dans cette Coupe d'Afrique de football.
Mais on le rappelle, hein, 14 minutes de jeu à Mongomo, Algérie 0, Afrique du Sud 0. Voilà, retour à présent sur le groupe B. Toutes les équipes sont à égalité avec un point chacune. Les voisins zambiens et congolais se sont retrouvés sur la pelouse hier à Bébibiyin. Et les choses n'ont pas traîné évidemment avec une ouverture du score dès la deuxième minute. Mais avant de parler de ces matchs du groupe B, nous allons prendre un auditeur en ligne. Il s'agit de Salif Diallo qui est à Bamako. Salif, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Alors Saïf, évidemment, hein, les choses sérieuses pour les Aigles du Mali, d'Henri Kasperzak, évidemment, qui joue demain contre le Cameroun, les Lions Indomptables. Qu'est-ce que vous attendez de ce match, vous?
Ben, nous attendons une très grosse prestation de la part des Aigles du Mali, car ils nous ont déjà habitués à cela depuis maintenant deux CAN, depuis 2012. Ils ont terminé troisième. Maintenant, 2015, 2013 encore, ils ont terminé troisième. Donc, on s'attend vraiment à une très grosse prestation de leur part. Mais quand même, on a des petits soucis, il faut le reconnaître, parce que on s'est fait un peu surprendre lors de la fin des éliminatoires. On avait des petits problèmes au niveau de la défense. Et je crois que c'est des problèmes, à mon avis, qui n'ont toujours pas été solutionnés, parce que c'est les mêmes hommes qui sont toujours avec l'entraîneur. Bon, nous croyons quand même à cette équipe malienne, parce que avec un joueur expérimenté comme Sidi Keïta pour encadrer ces jeunes, nous croyons, nous espérons pouvoir aller très loin avec les aigles dans cette CAN, faire mieux peut-être que les CAN précédentes. Donc, telle est ma vision par rapport à cette CAN.
Ouais, groupe D, pas facile également, Salif. Hein. Et il y avait ce match de préparation difficile, hein, 3-0 contre l'Afrique du Sud. Le moral, en tout cas, il y aura des choses à prouver hein, du côté des aigles du Mali. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Comme je le disais, on a des difficultés au niveau de la défense. Ça, c'est une réalité. Donc maintenant, ça, là, c'était un match de préparation. L'entraîneur a sûrement retenu des leçons par rapport à ce match amical. Donc, je crois que avec Seydou qui était en pleine forme, car vous savez qu'en fin de l'éliminatoire, Seydou n'était pas très présent lors des deux matchs qu'on a eu des problèmes avec, surtout avec le match contre l'Éthiopie. Donc, mais avec sa présence à encadrer ces jeunes, je crois que les aigles, avec les attaquants que nous avons, peuvent vraiment aller loin malgré l'absence de l'échec Tidiane Diabaté qui est déplorable. Mais quand même, nos adversaires aussi, c'est des gros morceaux du football africain, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est les habitués de cette compétition. Il faut le reconnaître, le Cameroun qui revient très très fort, mais la Côte d'Ivoire qui a des petits soucis aussi. Surtout au niveau de la défense. Donc, il faudrait que les aigles profitent de cette situation, de cette doute ivoirienne pour vraiment relever leur niveau de jeu et vraiment les surprendre dans ces moments difficiles. Une équipe guinéenne aussi qui joue un très, très beau football, qui est à craindre, franchement. C'est l'équipe que je redoute le plus.
Eh ben on va poser. Merci beaucoup Salif de nous avoir appelé depuis Bamako. On va poser la question à Jules Valentin Ngoué. Jules Valentin Ngoué, le retour évidemment des Lions Indomptables, un très beau parcours en éliminatoire, en tout cas beaucoup mieux que ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde et cette image catastrophique des joueurs qui se battaient sur le terrain. Finalement, Jules Valentin, le Cameroun sans Samuel Eto'o finalement semble redresser la tête. Hein.
Oui, non, le Cameroun a toujours été présent lors des phases finales, ça il faut le dire. C'est l'équipe à battre pendant très longtemps et donc on s'attend à trouver, quel que soit le casting, à retrouver toujours une équipe qui ira jusqu'au bout de ses efforts. On se rappelle que au Ghana en 2008, l'équipe était quelconque, mais à deux doigts, elle a failli remporter la coupe. Et donc, finalement, c'est peut-être dans cet anonymat où il y a moins de joueurs vedettes que les Camerounais vont retrouver leur véritable qualité, les qualités collectives, l'esprit de groupe pour surmonter les montagnes. Mais ils sont attendus et seront présents.
Merci beaucoup Jules Valentin. On va poser la question à Élisée Oumpatine. Élisée, que peut vraiment attendre hein, le Sili National de Guinée de cette compétition? Groupe pas facile, hein, mais qualification devant le Togo notamment et devant l'Ouganda. Et puis il y a eu cette claque lors du match de préparation. Certains diront une fessée même. Hein. Le Sénégal qui avait battu 5-2 évidemment la Guinée. Que peut attendre la bande entraînée par Michel Dissuyé de ce groupe D qui est vraiment difficile hein. C'est pas le groupe de la mort, mais ça y ressemble. Hein.
Pour moi, c'est pratiquement le groupe de la mort, puisque quand nous prenons le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est forcément du poids lourd. Maintenant, souvent ces matchs de préparation, à mon avis, ça permet aux sélectionneurs de mettre un schéma tactique sur pied. C'est vrai que bon, les gens diront que le résultat, on doit tenir compte des résultats, mais pour moi, les résultats importent peu. Si le Sénégal arrive à battre cette équipe guinéenne 5-2, cela veut dire que quelque part, peut-être Michel Dissuyé est en train de mettre sur pied un schéma tactique pour pouvoir bien entamer surtout cette compétition dans ce groupe-là. Maintenant, la Guinée-Conakry n'a rien à perdre hein, durant cette compétition. Il faut le préciser que cette formation a disputé hors de ses bases, hein, ces éliminatoires, cela démontre que cette équipe n'aura pas tellement de pression. Mais attention, attention, puisque Michel Dessuyer maîtrise, bien sûr, c'est la campagne africaine, c'est un expérimenté pour avoir déjà pris part tout au moins à deux CANs, à deux Coupes d'Afrique des Nations. Donc la Guinée-Conakry n'a rien à perdre et pourra quand même profiter de son statut d'outsider pour pouvoir surprendre peut-être dans ce groupe D.
Voilà, merci beaucoup. Avant de continuer évidemment sur la Côte d'Ivoire, on va faire un coucou à l'envoyé spécial de VOA Afrique en Guinée équatoriale à Malabo. Abou Shakour Aboud, bonsoir.
Bonsoir Pino.
Alors, est-ce que vous nous entendez bien là-bas à Malabo ?
Oui, très bien.
Alors, vous êtes sur place évidemment, on a beaucoup parlé des soucis d'infrastructure. Hein. Vous aviez rencontré, c'était samedi, le secrétaire général de la CAF, El Amrani. Selon lui, il ne fallait pas s'attendre à des miracles, hein. C'est bien ça, lors de cette compétition ?
Oui, il a dit, bon, pour le moment, c'est que toutes les infrastructures pour les jeux, c'est bien fait, mais le problème, c'est question des hôtels et tout ça. Mais eux, ils ont pu résoudre ce problème. Et il a dit, l'évident, la preuve, c'est que les matchs déroulent comme prévu et les équipes sont bien entraînées. Et alors, ils pensent pas qu'il y aura de problème.
Et alors, quelle est l'ambiance sur place ? Évidemment, vous êtes à Malabo, vous n'êtes pas sur le continent, mais quelle est l'ambiance sur place ? Est-ce qu'on sent cette ferveur, une compétition organisée en moins de 50 jours ? Est-ce qu'on sent la ferveur sur place ?
Oui, tout le monde attend que le match de groupe D commence demain. Là, on est au stade Malabo, là où il y a l'équipe de Mali qui sont en train de faire la connaissance de pelouse. Il y avait le Guinée, il y avait les Côtes d'Ivoire et on attend les Camerounais. Mais dans la ville, tout le monde est content, tout le monde attend bien que les matchs commencent ici à Malabo demain.
Merci beaucoup, c'était Abou Shakour Aboud, l'envoyé spécial de VOA Afrique à Malabo en Guinée équatoriale. On va revenir sur ce groupe D, on parlait de la Côte d'Ivoire, on va écouter Roger Stéphane C. Roger Stéphane, est-ce que finalement l'équipe la plus en danger de ce groupe, ce n'est pas la Côte d'Ivoire hein, parmi les deux autres favoris avec le Cameroun et le Mali? Est-ce que finalement la campagne désastreuse et la qualification in extremis lors de la dernière journée n'a pas encore laissé des doutes parmi les éléphants?
Et ajouter à cela les résultats des deux derniers matchs amicaux après la préparation à Abu Dhabi.
Et la défaite 2-0 contre la Suède.
Et surtout la défaite surprise face à une équipe B de la Suède 2-0 qui a mis en quoi en relève les problèmes défensifs de cette équipe ivoirienne. Mais enfin bref, pour une fois, on va reprendre les propos de Yaya Touré, le capitaine d'équipe, qui dit pour une fois, la Côte d'Ivoire n'est pas favorite. Et peut-être cette situation, ce schéma permet aux éléphants d'entrer doucement dans la compétition et de voir venir les différents adversaires. La pression est beaucoup plus sur l'équipe du Cameroun qui a fait une grande campagne dans les éliminatoires, sorti une mauvaise Coupe du Monde. Donc la Côte d'Ivoire est tranquille. Elle va gérer certainement doucement face à ces deux petits adversaires que sont la Guinée et le Mali. Rappelons que depuis 20 ans, la Guinée n'a pas encore gagné la Côte d'Ivoire. Les 12 dernières rencontres, 8 ont tourné à l'avantage des éléphants. Et donc, c'est des éléments importants. Yaya Touré l'a dit, nous ne sommes pas favoris, mais nous attendons jouer pleinement notre chance dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Hervé Renard s'est évertué à soigner cet homme d'éléments durant la préparation. On a une équipe type, notamment en défense, avec Colo, Eric, Bertrand, Césorier et Wilfried Canon, qui a donné un peu de satisfaction. Mais enfin, laissons le voir, le match de demain va nous situer véritablement sur le potentiel et les ambitions réelles de l'équipe ivoirienne à cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football.
Et finalement, Roger Stéphane, est-ce que Yaya Touré est vraiment le patron de cette équipe ?
Oui, Yaya Touré reste le patron de cette équipe. Vous savez, c'est notre ballon d'or. C'est le meilleur joueur africain de ces 4 dernières années. Là, il n'a pas procédé aux 2 séances d'entraînement. Il explique qu'il a beaucoup joué ces dernières semaines avec son club. Donc, il fait un peu attention. Mais au-delà de ça, tout va bien. Yaya Touré a pris le pouvoir en l'absence donc de Didier Drogba et Zokora. Didier, c'est Yaya Touré qui est le vrai patron de l'équipe. C'est un gros bonhomme, c'est un gros monsieur. C'est vrai qu'il n'a pas la personnalité de Didier Drogba, mais en tout cas, sur la pelouse, il a le talent, il a la qualité. C'est sur lui que Hervé Renard compte pour pousser cette nouvelle équipe, plus ou moins ivoirienne, qui va peut-être faire mieux que la redoutable formation, la belle génération qu'on a connue par le passé, conduite par un certain Didier Drogba.
Merci beaucoup Roger Stéphane C. On va évidemment vous rappeler actuellement le score 0-0 après 25 minutes de jeu entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Ça se passe à Mongomo, évidemment en Guinée équatoriale. Non, ne me teste pas, non, j'ai la balle, ne teste pas. Écoute la foule crier qu'on va gagner. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. On parle de sport, on parle de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Nicolas Pinault, avec vous ce soir, un grand plaisir. On va revenir au cours de cette émission pour parler du groupe B. On le disait, les quatre équipes sont en un point. Il y a eu d'abord le match nul un partout entre la RDC et la Zambie et le match nul un partout entre la Tunisie et le Cap-Vert un peu plus tard. On va revenir justement à ce qui s'est passé sur le terrain à Ebebeyin. C'était dès la deuxième minute puisque les choses ont démarré. On va essayer d'écouter le reportage de Thierry Kambundi de nos confrères de Top Congo.
Les Léopards de la RDC peuvent nourrir des regrets sur ce match dont ils ont dominé la majeure partie. Cueillis à froid par les Chipolopolo Boys de la Zambie qui ont ouvert la marque dès la deuxième minute par Given Singuluma, attaquant du tout-puissant Mazembe Angleber, les Congolais ont vite réagi dans les jeux, dominant une équipe zambienne moins inspirée et repliée derrière. Le sélectionneur des Chipolopolo Boys a d'ailleurs reconnu que son équipe a mal joué. Onu Jansa.
I think what didn't work well for us is maybe we were a bit careless on the passes.
Bon, je crois qu'on n'était pas bien dans la façon comment on a passé le ballon. On a facilité le jeu pour l'équipe de Congo, alors ils ont passé bien le ballon, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment pu faire un bon match.
Jean-Florent Ibengei Kwange lui souligne la mauvaise entame et l'inefficacité de ses poulains malgré l'égalisation de Yannick Bolassie à la 66e minute.
Encaisser un but comme ça dès la première minute, c'est pas ce qu'on avait voulu. On a fait une très mauvaise entame. On a rectifié en deuxième mi-temps en mettant un petit peu de rythme. On est revenu au score, mais on est déçu du résultat, c'est sûr.
Les deux voisins se neutralisent donc et espèrent se relancer à la prochaine journée. Depuis Ebebeyin, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour La Voix de l'Amérique.
Voilà, Thierry Kambundi qui est évidemment sur le terrain actuellement. On va donner évidemment les autres résultats. La Tunisie qui a été tenue en échec par le Cap-Vert, un but partout. Tout s'est joué dans la deuxième période dans ce match, avec notamment l'ouverture du score à la 70e minute de jeu par Monser, par les Aigles de Carthage. On va écouter le buteur tunisien. Je vous propose d'écouter Mohamed Monser.
Alhamdoulilah, on a fait un bon match. Je pense que le Cap Vert, c'est une bonne équipe. Inch'Allah, le prochain match, on va faire le max pour gagner, Inch'Allah.
Voilà, Monser, hein, le buteur tunisien. On va écouter côté capverdien, Ryan Mendes, pas très satisfait de la performance de son équipe.
Et nos occasions en première mi-temps, après voilà, il marque un but. On devait recouvrir dans le score. On a réussi à revenir, j'ai envie de dire tant mieux, parce que sinon on allait avoir beaucoup de regrets, parce que ce match-là on doit la gagner. Mais nous on veut vraiment passer dans cette groupe, parce que je pense qu'on a de la qualité pour passer. Donc on va essayer. Mais maintenant je pense qu'il va falloir qu'on commence à marquer des buts, parce que sinon on va pas gagner les matchs.
Voilà Jules Valentin de Gouin, tout est serré hein, dans ce groupe B évidemment, les quatre équipes qui se tiennent en un point.
Oui, les quatre équipes qui se tiennent, et c'était attendu d'ailleurs. On savait que le derby du bassin de l'Afrique centrale entre la Zambie et la RDC allait être difficile. Ça, c'était un derby, c'est un match de voisins. Et donc, quelle que soit la qualité du match, c'est toujours ardu. Et on savait aussi que de l'autre côté, le Cap-Vert, il ne faut pas l'oublier, était premier de sa poule face à la Tunisie pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais a été éliminé pour un problème de joueurs alignés. Et donc, finalement, c'est la Tunisie qui avait joué le dernier match contre le Cameroun. Donc, c'est des équipes qui se connaissent bien.
Oui, évidemment. On va à présent parler de cette information. Évidemment, Nathan Sinkala, l'un des Chipolopolo de Zambie, a déclaré forfait pour le reste de la CAN après s'être blessé à un genou. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la Fédération Zambienne. Et puis, évidemment, on va parler des matchs du groupe A. On a beaucoup parlé de cette surprise, le match nul entre le Nzalang National et les Diables Rouges du Congo. C'était en match d'ouverture à Bata. Jules Valentin Gouet, petite déception hein, pour les Congolais, puisqu'on a priori, hein, les Équato-Guinéens étaient les plus faibles de ce groupe. Est-ce que c'est une occasion manquée selon vous?
Disons que c'est peut-être, on peut dire que c'est une occasion manquée par rapport au pronostic, mais la Guinée équatoriale nous a surpris et son recrutement que tout le monde sait est relativement à la veille des grandes compétitions a été judicieux et le jeu produit par les Guinéens en première mi-temps était franchement attractif. Et donc finalement le Congo a eu le mérite de réagir et donc le score est équitable, je crois que tout va se jouer à la deuxième journée.
Et autre équipe qui va devoir réagir, c'est le Burkina Faso, vice-champion d'Afrique, qui a été battu 2-0 par le Gabon. On va évidemment suivre ça sur VOA Afrique. Voilà, ainsi va s'achever ce Sporama. Merci à tous de nous avoir suivis. On va faire un grand coucou à Jules Valentin de Goya Libreville. Merci Jules.
Ok, merci Nicolas, et surtout à très bientôt.
Un grand bonsoir à Roger Stéphane C à Abidjan, bonsoir.
Oui, bonsoir Nicolas et Alain.
On va saluer tous les fidèles de VOA Afrique qui nous ont appelés. Michel Joseph était à la mise en onde. Nicolas Pineau à la présentation. On va vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Olé, 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 olé.